Hommage a Tropico.
Ay, Pedro, enfin, quelle nouvelle.
Oh, le palais présidentiel a été attaqué et la gendarmerie a tenu en échec les rebelles.
Caramba, et la banque?
Ah, vos comptes en Suisse sont en sûreté.
Très bien, très bien. Il faut déblayer les cadavres et replater les murs. Y attend une délégation de sénateurs americanos.
Ah, mais qu'est-ce qui amène nos amis en qui?
Et ils ont des planos pour un proyecto de la base militaire.
Et vous allez accepter dos?
Oui, ça dépend. Et qu'est-ce que le plus important? La liberté de mes citoyens ou un nouveau homme cisport?
Olé, ça va de soi.
Et pour la couleur, il avait pensé en noir, en anthracite.
Oh, les forces armées sont prêtes à protéger la démocratie, présidente.
Ah, Dieu blesse l'Amérique.
Y hasta creerá que se dirá te quiero.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du 25 janvier 2010 de votre magazine sur le monde ludique, le monde des jeux bien sûr, puissance maximale. Mon nom est Vincent Langlois et comme à chaque semaine, je suis en compagnie de François Gécouillard.
Salut Vincent!
Salut François! Et nous avons également la chance aujourd'hui d'avoir Raymond Poirier avec nous pour sa chronique.
Bonjour à vous deux.
Et bon, bien sûr, une émission remplie comme chaque semaine. Donc Raymond, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui à ta chronique sur le web?
Eh bien, on va aller s'intéresser au marketing viral. Est-ce la fin de la culture Internet telle que nous la connaissons?
Excellent. De mon côté, moi, je vais vous faire un petit commentaire sur un jeu que j'ai testé la semaine dernière qui s'appelle Darksiders, un jeu sur le PS3, mais également disponible sur la Xbox 360. Et François, nous avons de la visite également à peu près à la demi de l'heure.
On va avoir le professeur de l'Université de Laval, Maxime Coulombe, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Le monde sans fin des jeux vidéo.
Oh, alors, un entretien très intéressant à venir.
Ça va être intéressant. Et on va sûrement aussi avoir un peu d'actualité.
Un petit peu d'actualité en fin d'émission. Super. Et on va débuter ça tout de suite en musique, comme à l'habitude.
Ça va être le groupe Les Frères Goyette, groupe québécois, qui va faire une pièce tirée de leur dernier album qui s'appelle « Minimiser les dégâts ». Donc, c'est du bon rock pop rural, pratiquement agraire, qui parle de chars, de moteurs à gaz, de souffleuses. Parlez-moi de ça. Et la pièce s'appelle « Faites rien que je ferai pas ». Vous êtes à puissance maximale.
C'est plate quand ton 7-up est flat, mais ta boîte à lunch est pleine pareille. Grosse lunette, mais ça a l'air que tu vois plus clair. Hey, commande mon gars, et non pas peur des débarques, mais plus de naze dans ton jeu de cartes. Même ma soute de skidoo frette, oh grosse pareille. Même avec des chaussées double fret, passe pareil. Les étoiles brillent pas plus fort à Bethléem, ta lampe de poche éclaira pas plus. Même à Bay James, même en sous de deux, Skidoo le fret, passe pareil. T'es Neil Armstrong, sa lune. T'es le gros jour qui fait de la lutte. T'es pas paumé comme Diego Maradona. T'as l'air d'un os qui se tient sur les pattes d'un arrière. Olé! Même en sous de Skidoo, Fred, t'es passe pareil. Même avec des chaussures doubles, Fred, passe pareil. Ouais. Les étoiles brillent pas plus fort avec les M. Ta lampe de poche éclaira pas plus. Même à Bay James, même en sous de deux. Skidoo, le Fred, passe pareil. Viens, on va aller prendre une marche, virer au Danemark. Viens, on va aller changer notre monnaie. Alors, mais là, il me dit, c'est pas que je vous aime pas, faut juste comprendre bien que c'est. Dans cette plus fort que moi, il fait trop mauvais. Ah, même en sous de Skidoo, le fret passe pareil. Même avec des chaussures doubles, le fret passe pareil. Allez, cette étoile brille pas plus fort avec les M. Ta lampe de Porsche n'éclaira pas plus. Même à Bay James, même en sous de Skidoo.
Les grands phénomènes du web. Expliqué par Dr. Raymond Poirier.
De retour à puissance maximale sur les ondes de CKIA. Et oui, bien sûr, c'est la chronique, comme l'indiquait justement l'indicatif, les phénomènes du web avec Raymond Poirier. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui est relié à une marque de lunettes.
Exactement. Mais en fait, c'est un peu le point de départ de ma réflexion de cette semaine parce que je me suis dit, je vais moins expliciter un phénomène que faire un constat qui est peut-être un peu triste sur l'univers de la culture Internet. Le 12 janvier dernier, il y a la marque de lunettes Ray-Ban qui a mis en ligne une série de vidéos. Il y en a un qui a percé d'ailleurs très rapidement. C'est essentiellement un type qui, selon le contenu du vidéo, se fait tatouer une paire de lunettes Ray-Ban sur le visage. Bien entendu, ce vidéo-là n'est pas vrai, c'est stagé, comme on dit en bon québécois.
Mais c'est pas clair là, sur la vidéo, moi je l'ai regardé.
Sur le vidéo, on essaie de faire passer ça pour vrai. L'idée étant d'engranger une série de débats et discussions, à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai.
Ah, pour stimuler,
l'intérêt. Parce que si on dit je fais semblant de me faire tatouer des lunettes sur le visage, ben nécessairement on a moins envie de le diffuser sur Facebook, sur Twitter, dans nos blogs, etc. Tandis que s'il y a la possibilité que ce soit vrai, on se dit, mon Dieu, ce gars-là est donc ben cave, et on le diffuse. Alors, c'est une stratégie qui a très, très bien fonctionné. En deux jours, ce clip-là a été cherché 500 000 visionnements. Donc, c'est quand même beaucoup. Et tout ça se situe dans le cadre d'une campagne virale là, de Ray-Ban. Il y a quelques vidéos qui ont été faites un peu dans le style un peu absurde, un peu « est-ce vrai, est-ce faux ?»
Et ça c'est Ray-Ban, c'est la marque de commerce un peu de la publicité là, maintenant de Ray-Ban, c'est qu'ils font régulièrement comme ça des faux vidéos amateurs. Là.
Exactement, en essayant de faire passer ça pour du contenu généré par l'usager au départ, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est des amis qui ont filmé ça avec leur petite caméra.
C'est justement ce que ça donne comme impression la première fois qu'on voit le vidéo.
Exactement, et c'est ça l'idée, parce que de plus en plus ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des compagnies, qu'il y a des corporations qui ont découvert l'intérêt marketing des vidéos sur Internet et des phénomènes Internet en général. Donc, plutôt que de voir un phénomène créé par un usager comme David After Dentist se générer de lui-même avec quelques petites poussées d'usagers motivés, eh bien là, on a des corporations qui récupèrent pour eux-mêmes les mécanismes du web pour s'assurer justement que les vidéos qu'ils mettent sur le web connaissent un certain succès. Parce que nécessairement, on le sait, on n'est pas des rêveurs. Quand on met un clip sur YouTube, le pourcentage de chances qu'il soit diffusé largement est extrêmement faible. Il y a énormément de nouveaux contenus qui est généré à chaque jour. Donc, nécessairement, pour qu'un contenu se démarque, il faut qu'il y ait des outils qui soient disponibles. Et donc, ces organismes-là, ces commerces-là, font affaire avec des agences ou ont à tout le moins le temps ou les effectifs pour s'assurer que le clip, rapidement, va aller chercher 100 000 visionnements, que rapidement, il va se retrouver sur les pages d'accueil de YouTube, qu'il va se retrouver partagé via des réseaux Facebook, qu'il va se retrouver également sur les blogs important du web. On pense à une marque québécoise. Si on veut faire une vidéo virale qui a du succès au Québec, mais nécessairement, il faut viser à ce que ce blog-là se retrouve sur le blog de Patrick Lagacé, par exemple, parce qu'on sait que ça va avoir une influence. On sait où il faut aller cibler cette création de développement-là pour essayer de générer justement un contenu viral qui a un succès. Donc ça m'a amené à une question, dans le fond, à savoir est-ce que tout ça est en train de dénaturer un peu l'esprit du web 2.0?
Ben oui, c'est une bonne question.
Parce qu'on nous a toujours dit, en fait, que le Web 2.0, c'était du contenu créé par les utilisateurs pour les utilisateurs. Donc, tout est là, des blogs, des Facebook, des Twitter, etc.
C'est les gens comme nous autres qui mettent du stock sur
Internet.
Voilà.
Mais de plus en plus, des comptes Facebook de compagnies existent, sont mis de l'avant. De plus en plus, il y a des faux blogs qui sont créés pour vendre des produits en faisant semblant d'être des blogueurs réguliers, mais on vend un produit ou des blogs qui sont situés à l'intérieur de sites d'entreprise.
Même, ça peut être des blogs pour encourager des entreprises privées, mais ça peut être aussi des blogs pour qui peuvent servir aussi pour des politiciens. Il peut y avoir des faux blogs là, créés pour stimuler un intérêt envers un parti politique, par exemple.
Des Twitter également, d'entreprises, d'organismes, de personnages, etc., etc. Alors, de plus en plus, ces mécanismes-là sont en train d'être récupérés en dehors du contenu pour lequel ils avaient été au départ pensés. Alors, est-ce que, justement, le contenu généré par l'utilisateur va perdre de plus en plus de son influence face au contenu créé par des corporations? Est-ce que aujourd'hui il faut compter purement sur le hasard, dans le fond, pour que un clip comme Ask a Ninja, comme Numa Numa, comme Soulja Boy et les autres classiques du web réussissent à percer? Parce que nécessairement, aujourd'hui, l'usager qui met son clip amusant ou Chad Vader est compétitionné par Ray-Ban, est compétitionné par Walmart, est compétitionné par une série de politiciens et autres. Ça amène quand même des grandes questions. Et pour vous dire à quel point c'est quand même majeur comme phénomène, présentement, quand on regarde la liste des 10 vidéos, des 20 vidéos les plus diffusées dans la blogosphère, dans les Twitter, sur Facebook, etc., bien, la vaste majorité, sinon la totalité de ces clips-là, c'est des clips à tendance corporative. Donc, soit du faux contenu viral ou du contenu viral publicitaire, soit des bandes-annonces ou des vidéoclips. Donc, il y a de moins en moins de place dans ces outils de diffusion-là, du moins qui est donné au contenu généré par l'usager.
Et ça, c'est une tendance lourde. Donc, ça risque de plus en plus, là, les entreprises privées vont prendre de plus en plus de place sur les sites de diffusion, qu'on appelle les médias sociaux.
Parce qu'il faut dire aussi, c'est pas cher. C'est complexe de réussir une campagne virale. C'est facile d'en rater une, cela dit, mais c'est quand même pas cher et c'est extrêmement efficace. On en parlait l'année dernière, lors de ma dernière chronique de l'année, où je disais, ben, regardez, des clips générés par l'utilisateur. On pense à J.K. Winning and Trance, qui a généré un sursaut très important de vente de la chanson qui est mise de l'avant dans leur clip.
Le mariage, les hommes de cœur, je ne sais pas trop.
Exactement,
comment ça s'appelle,
fait bref,
ils se mettent à danser.
Exactement. Et donc, le clip a généré des ventes pour la pièce de musique qui s'est retrouvée au sommet d'Amazon et de iTunes. Alors, nécessairement, il y a de l'argent à faire et nécessairement, en fait, les compagnies n'ont plus à être convaincues de l'utilité d'un marketing viral. Donc, ça change la donne là-dessus. Et déjà aussi, il y a des gens qui commencent à sortir des guides de conseils pour bien réussir, justement, sa mise en place. Je vous donne peut-être quelques conseils là-dessus pour peut-être mieux comprendre les mécanismes aussi.
De trouver les plans de communication des entreprises privées, tout là.
Exactement. Alors, bien, première chose qu'il faut se dire, c'est qu'un succès viral n'est pas ce qu'il semble. Nécessairement, donc, comme on le disait, il y a des mécanismes qui sont mis en arrière pour générer des clics, donc des outils, des logiciels qui existent pour générer plus de clics.
Un clic, c'est pas nécessairement une personne qui a cliqué pour aller voir la vidéo. Il va y avoir des outils développés.
Exactement, pour réussir à cliquer et le faire efficacement. Ensuite, le contenu n'a pas d'importance. L'idée, c'est simplement de s'assurer qu'on va faire quelque chose qui peut être vu, mais qui peut aussi être remixé. On pense à Dramatic Hamster, qui est un contenu généré par l'utilisateur, mais qui est très court, 15 secondes, qui peut être remixé facilement. Il faut que ça soit ça aussi. La stratégie, c'est d'abord et avant tout de se retrouver dans les pages les plus regardées, parce que c'est là que la plupart des gens vont voir et vont choisir le contenu qu'ils vont visionner. Donc, à s'assurer de se retrouver dans Facebook, dans les blogs qui génèrent beaucoup de visionnement, qui est à même payer pour être diffusé sur ces outils-là. D'optimiser le titre, d'optimiser les liens également qu'on met, donc les tags, et également d'optimiser l'image en fait qu'on retrouve du vidéo pour attirer l'attention, d'en avoir quelque chose de choquant, de surprenant, et également de générer un débat, quitte à ce que ce soit un débat entre les employés de la même compagnie. Donc, l'idée est de simuler une controverse. Et également, ce qu'on dit en terminant, et c'est ce que Ray-Ban a fait aussi de son côté, on sort pas un clip et ensuite on attend quelques semaines, on sort tous nos clips en même temps. Comme ça, ça va générer un effet d'entraînement et les gens vont surfer d'un clip à l'autre qu'un usager a produit s'il trouve le premier intéressant. Alors, nécessairement, c'est des outils, vous allez pouvoir le voir quand vous surfez sur le web et vous allez pouvoir constater aussi à quel point, dans le fond, la donne, le jeu, l'univers Internet est en train de changer. Pas nécessairement pour le mieux. La question pour les usagers, c'est comment maintenant, face à cette invasion-là, l'usager peut reprendre dominance et peut reprendre le contrôle sur la diffusion des clips pour que le contenu soit réellement démocratisé.
Assez difficile parce qu'on n'a pas les moyens justement de ces grandes corporations-là.
Ah oui?
Ils ont l'argent pour payer, hein?
Mais par contre, les usagers ont la spontanéité, la folie, la vérité de leur côté. Mais bon... Mais
est-ce que ça crée un problème éthique, justement, à ce niveau-là?
Ben oui, dites-nous, docteur Poirier, est-ce que il y a un problème, justement, éthique? Est-ce que c'est premièrement légal de faire passer une vidéo promotionnelle pour une vidéo virale? Alors que
sur Internet, tout est légal, presque moralement, je veux dire. En fait, il y a des limites de l'acceptable et le reste, mais ça reste un contenu généré par un utilisateur dans la mesure où les corporations sont des personnes morales. Donc, peuvent générer du contenu, peuvent utiliser ces outils-là. Le problème, c'est qu'ils commencent à l'utiliser de mieux en mieux.
Moi, en allant voir cette vidéo-là, justement, sur YouTube, j'avais aucune indication qui disait que c'était une publicité ou c'était vraiment fait par eux. Même on lisait la petite description, c'était... Rien d'indiqué à ce niveau-là. Donc,
je pense que j'ai même pas vu le mot Ray-Ban
de
la compagnie.
Non, c'est l'efficacité de cette campagne virale-là qui est moins publicitaire que d'autres, peut-être. On pense au bébé d'Evian où là, c'était clair, je regarde une pub, je diffuse une pub. Là, les gens peut-être se prêtent au jeu un peu plus facilement, un peu plus inconsciemment aussi, nécessairement.
Le seul moment où j'ai eu un doute, c'est quand j'ai vu la paire de lunettes apparaître dans l'écran à la fin. C'était vraiment la paire de lunettes Ray-Ban. Si les gens ne savent pas c'est laquelle, bien c'est celle qu'a porté Jack Nicholson pendant tant d'années et même notre auteur-compositeur Luc Plamondon à l'époque. Je pense qu'il ne les porte plus aujourd'hui, mais bon, c'est cette paire de lunettes-là dont on parle. Alors bien, merci beaucoup Raymond Poirier d'être passé à l'émission.
Ça me fait plaisir.
Sujet très intéressant et on va continuer en musique, François.
Oui, on va l'écouter. D'ailleurs, la vidéo, on va le mettre sur Internet, là, évidemment, sur puissancemaximale.com.
Et il est également sur mon blog, Regard Web, oui. regardaupluriel.wordpress.com.
Allez voir ça, il y a toutes sortes de beaux vidéos sur ce blog-là, c'est de toute beauté. Alors, on va écouter une pièce de Fred Radix. Qui est Fred Radix? Moi, j'en ai aucune idée, mais c'est toujours est-il que c'est un gars qui a participé au concours de Petite Vallée 2003, et j'ai trouvé la compilation de ce concours-là de musique. Et il va faire une pièce qui s'appelle Québec Love. Et pourquoi je la passe? Parce que c'est un Français qui joue une chanson sur le Québec avec un accent qui essaie d'imiter l'accent québécois. Alors, tous les Québécois, ils aiment ça quand il y a un Français, ils essaient d'imiter l'accent québécois. Alors, vous êtes à puissance maximale.
Paranoïaque, rouspette, pipette, pipette de hache, ça c'est de la marde. Décollé de shit, pipette fume pas. Puis moi je m'en crisse, fume ou fume pas. C'est le même problème, moi j'en ai pas. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? Pour moi c'est clair, comme de l'eau de roche. Rocher percé, t'en souviens-tu? Il est toujours là, puis il bouge pas. Y'a rien qu'un œil qui te regarde. Ça c'est moi et toi, tu me vois pas. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? C'est comme ton ombre, tu regardes pendant que c'est toi, mais c'est pas toi. Ton ombre te suit, suis-la donc pas. C'est ma bebelle, c'est notre bebelle. Ben c'est quelque chose, moi je m'occupe pas. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut. Même si ça pète, même si ça tonne, ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Toi tu l'as pas, mais ça viendra. Moi je me sens venir, puis je vais revenir. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? J'suis défriché, pas défroqué. En dessous de mes cheveux, ben j'ai ma tête. Un Québec Love, ça c'est mon bague. Faut faire quelque chose, ah ouais ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? Puis les états, c'est ta personne. C'est ta babelle, c'est pas notre bebelle. Qui se l'arrache, puis moi je m'en sacre. Moi j'ai mon arche, arche de Noé. Joyeux Noël, tremblez, ça c'est à nous autres. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? Y'en a plus de Christ, y'a plus de Christmas. Qui se l'arrache, leur Santa Claus. Puis chez Eaton, H. Simpson. Moi je me contente de Dupuis frère. Moi je me contente d'Homère de Serre. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça? Pacifique plante cruise les Anglais. Pacifiquement si c'est possible. Si c'est possible, pacifiquement. Si ça l'est pas, donne-moi un gun. Donne-moi un gun, moi je m'en occupe. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Monsieur Fall, de TrickTrackNet, finalement, que l'on salue, un de nos amis français qui écoute Puissance Maximale, justement, en direct et sur le web. En passant, Puissance Maximale, vous pouvez aller sur notre site Internet, le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous retrouvez de l'information, des nouvelles, également nos courriels, si vous avez des commentaires à nous donner, à moi et François. On en reçoit plein à chaque semaine.
Et n'hésitez surtout pas, puis aussi, si vous voulez communiquer en direct avec nous, le Facebook de François Gécouillard et l'affaire à ketchup.
François Gécouillard. Et si vous trouvez ça sur Facebook. Et on est directement en onde. Donc, bien, c'est le temps de parler de la chronique jeux vidéo Darksiders. C'est un jeu que j'ai essayé la semaine dernière. Je l'ai essayé sur la PS3 et il est également disponible sur la Xbox 360. C'est un jeu d'action et d'aventure de type science-fiction. Il est édité par THQ, une compagnie qui a annoncé dernièrement qu'il va se bâtir à Montréal au cours de la prochaine année. Et il y a des emplois disponibles, si ça vous intéresse, THQ. Vous allez sur le site Internet, possible d'avoir des emplois à Montréal. Développé par Vigil Games, c'est un jeu mature, donc il faut avoir 18 ans et plus, bien sûr, pour pouvoir l'acheter, ou 17 ans et plus, dépendant de ce qui est indiqué. C'est un jeu à un joueur qui coûte 59,99 et c'est disponible depuis peu, depuis deux semaines environ. L'histoire de ce jeu-là, Darksiders, moi, c'est un de mes amis qui m'en a parlé. Il m'a dit, hey, un super jeu qui vient de sortir à la God of War et également à la Legend of Zelda. Donc, un jeu qui nous permet de se battre,
un
avoir
jeu
des combats.
Qui brasse beaucoup.
Qui brasse beaucoup. On sait que God of War, en fin de compte, c'est du hack and slash, comme on dit en très mauvais français. Donc, on rentre dans le tas et on se bat avec des armes. Et bon, il y a un peu de sang. Ici, le sang est noir dans le jeu. Ah. Mais, et à la Zelda, pourquoi? Parce qu'on tombe dans des donjons. Il y a différents casse-têtes ou puzzles qu'on doit résoudre pour pouvoir avancer dans l'aventure. Donc, très intéressant à ce niveau-là. On n'avait pas quelque chose qui mêlait tant que ça ces deux types de jeux-là au niveau de la PS3 et de l'Xbox 360. Il y avait Zelda, bien sûr, sur le Nintendo, qui a toujours été le top, disons, en haut de tous ces jeux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire? Bien, on incarne le personnage de War, ou Guerre, si vous préférez.
Le gars s'appelle War.
War, c'est un des quatre chevaliers de l'Apocalypse, les Four Horsemen.
Oui, c'est vrai, il y a la guerre, la peste, la maladie.
Et voilà, donc, on est un de ces quatre personnages-là. Et on est envoyé sur Terre au moment de la bataille finale de l'Armageddon. Là, c'est la fin du monde total qui arrive. On est envoyé juste pour s'assurer que tout se passe bien. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la fin de... C'est l'extinction de la race humaine qui arrive, et War est jugé pour ça. Hein? Donc, il y a quelque chose qui est arrivé qui n'était pas correct. Il n'a pas bien géré, en fin de compte, cette ambiance, disons, apocalyptique. Et il doit retourner sur Terre dans un monde post-apocalyptique pour rétablir l'ordre. Hein? Parce que c'est Heaven and Hell, donc le paradis. Tu fais 1-1-1. C'est justement ce qui arrive quand on suit l'histoire. C'est totalement incompréhensible. Ça commence bien. Bon, OK. Et là, tu te dis, est-ce qu'il faut que j'aille des notions un petit peu, justement, au niveau de ça, là, les chevaliers de l'Apocalypse, pour comprendre? Là, tu te dis, bon, OK, je vais embarquer dans l'histoire. Puis, justement, tout le long de l'histoire, la seule chose que tu te poses comme question, c'est 1.
Qu'est-ce que je fais là?
C'est 1. Qu'est-ce qui arrive? Où en suis-je rendu? Alors, non, mais tu ris? C'est un des seuls problèmes du jeu. Parce que, okay, à part ça, on embarque dedans. Vraiment, là, on commence à jouer. Puis c'est quand même assez incroyable. Là. On commence à se battre, puis on veut toujours se battre. On veut toujours avancer. On veut faire des donjons. On veut vraiment tout voir ce qui se passe autour de notre personnage. Et bon, bien sûr, quand arrivent les animations, on essaye de comprendre l'histoire. On comprend pas plus à chaque fois, à moins d'être très calé dans cette partie, disons, de l'histoire de science-fiction. Et c'est quand même un jeu intéressant. Les graphiques sont super bien réussis, vraiment, là, j'ai été impressionné par ça. Les environnements également sont très bien faits, les cinématiques sont correctes. C'est un jeu qui va chercher le potentiel de la TV HD, donc le 1080p, là, le top, là. Bien sûr, il y a des jeux qui sont encore, disons, plus beaux sur la PS3. Moi, j'ai testé sur la PS3, je le rappelle. Je l'ai pas vu sur la Xbox 360, mais des jeux comme Uncharted, le dernier, est plus beau, mais c'est quand même impressionnant. Comme je disais, c'est un mélange de God of War et de Zelda. Au niveau de la jouabilité, c'est plutôt linéaire comme jeu. C'est pas nécessairement qu'on est entre deux murs puis on fait seulement suivre la ligne droite. Mais si vous vous rappelez, dans Zelda, les donjons sont quand même assez restreints. On peut aller
à d'autres donjons qu'on a fait, des trucs
oui,
comme ça.
Mais justement, il y a quand même une certaine ligne qu'on doit suivre pour se rendre au bout, tout simplement. Donc, c'est ce style de jeu-là. Il y a quelques petits mini-jeux qui sont présent dans notre quête principale. Là, par exemple, à un moment donné, on arrive, puis on se fait dire par un de nos alliés, ben là, tu devras aller tuer dans... je pense que c'était 4 points lumineux. Tu dois tuer 40 zombies ou 40 monstres par point pour pouvoir avancer plus loin dans ta quête. Donc,
ça devient comme une sorte d'aréna de combat. Là.
Un peu, c'est ça. Donc, en plus de faire une quête, puis d'avancer, puis d'avoir des puzzles, parfois on arrête, puis on commence à se battre pour pouvoir avancer plus loin. Donc, c'est un mélange de bien des choses. Comme je disais, on doit se rendre du point A au point B, mais pour se rendre du point A au point B, il y a comme un point A1, A2, A3. Ce qui fait que, oui, le jeu est linéaire, mais pas nécessairement au complet. La carte est quand même facile à comprendre. Les combats, bien sûr, c'est à l'aide d'armes qu'on acquiert. On a une épée en partant, mais après ça, on acquiert d'autres armes comme les boomerangs, des crochets, qui m'ont fait penser un peu à Zelda, parce que dans Zelda, justement, on a un boomerang, on a un crochet dans les derniers.
C'est vrai.
Qui sont, c'est quand même tiré de ça.
Sauf que là, on s'entend, c'est très différent de Zelda parce que c'est un monde post-apocalyptique.
Oui, puis c'est assez... C'est du 18 ans et plus, là. Ce qui se passe, là, on pense pas à Zelda comme le petit jeu facile et
joyeux
pour... tout à fait. Bon, bien sûr, les attaques c'est très simple. On pense à God of War, parfois on a des combos à faire avec les boutons de la manette. Là, dans celui-là, là, c'est un bouton pour se battre, puis on peut faire des mouvements fin pour avec le bouton haut.
Les finish him.
Il y a pas, c'est pas extraordinaire, mais bon, le jeu nous permet de le faire. Bien sûr, notre personnage peut esquiver, peut bloquer. On devrait le faire parce que souvent dans ces jeux-là, on veut juste avancer puis se battre. Mais on doit le faire parce que ça devient un petit peu plus difficile, bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. On peut changer des points qu'on acquiert pour justement avoir de nouvelles armes ou faire des modifications sur nos armes. C'est possible de faire ça. Et en général, le jeu, je l'ai trouvé bon. Je donne un 7.5 sur 10 à peu près, 7.58, là, j'hésitais, tu sais, quand même. Bien sûr, l'histoire est carrément apocalyptique, on la comprend pas, ça tombe bien.
Il y a un peu de
répétition dans le jeu. Là. On avance dans le donjon, c'est toujours les mêmes ennemis qui arrivent, c'est toujours les mêmes genres de personnages justement qui arrivent. Puis bon, malgré le fait qu'on justement dans ce que je te disais tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on avance dans le donjon, ok, on affronte certains ennemis. Puis quand on nous dit tu devras aller affronter dans tant de points lumineux des ennemis, c'est les mêmes ennemis qui reviennent. Donc, tu sais, on aimerait savoir un petit peu plus de...
Il manque un peu de variété.
De variété, tout à fait. Et le jeu, bien sûr, c'est un jeu de où on se bat, où il y a des puzzles, donc ça devient redondant. Parce que dans chaque donjon, on devra aller vers différents puzzles, trouver l'énigme et avancer. Donc, c'est certain que c'est redondant, mais moi... Quand même, je trouve que c'est un bon jeu. Ça vaut la peine d'être essayé. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr avec la critique que je viens de donner, vous pouvez toujours aller le louer. Puis vous verrez après ça si vous êtes intéressé par ce jeu-là. Alors, 7.5, 8 sur 10 pour le jeu Darksiders qui a été fait par THQ et Vigil Games.
Excellent. Donc voilà, je te remercie pour ta critique, Vincent.
Ça fait plaisir. Et on continue en musique?
Oui, monsieur. On va écouter la pièce sélection de notre ami français Yannick Capmarty. Ça va être une pièce du jeu Zone Ender. Yannick Capmarty est le webmaster du site musax.info qui se consacre exclusivement à la musique de jeux vidéo. Donc Zone of the Ender, c'est Anubis Zone of the Ender, c'est le jeu de mecha dans la mode japonaise. Donc c'est un jeu d'action qui a été réalisé par Shuyo Murata et produit par le célèbre Hideo Kojima. On va écouter une pièce de ce jeu-là.
Oui, je suis vraiment un nerd. Définitivement, je me cacherai pas, là, je suis vraiment un nerd.
Oui, vous l'assumez?
Absolument. Absolument, puis j'en suis fier d'être un nerd.
De retour à Puissance Maximale, et on reçoit en ce moment même Maxime Coulombe, donc sociologue et historien de l'art. Il est professeur d'art actuel à l'Université Laval et il vient juste de sortir un livre intitulé « Le monde sans fin des jeux vidéo » qui interroge la popularité des univers virtuels à la World of Warcraft. Bonjour, M. Coulombe.
Bonjour.
Donc, dites-nous, là, le nœud de votre livre, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ces jeux-là sont aussi fascinants. Qu'est-ce qui est aussi fascinant chez les jeux en ligne?
Ben exact. Je voulais éviter un petit peu les problèmes de dépendance aux jeux vidéo parce que c'est un débat sans fin. Ce qui m'intéressait plutôt, c'est de savoir, en fait, pourquoi il y a, entre autres dans le cas de World of Warcraft, 12 millions de jeunes et de moins jeunes qui y jouent. Je me suis intéressé, je suis parti en fait d'une petite idée qui appartient à Freud, qui est de dire le plaisir, c'est la réduction d'une tension, c'est pas une excitation. Autrement dit, les jeux vidéo apaisent un certain nombre ou répondent à un certain nombre de petites angoisses, de petits problèmes dans la société contemporaine. Les univers comme World of Warcraft sont des extraordinaires lieux de reconnaissance pour les jeunes. On y réussit sans cesse.
C'est des béquilles qui peuvent aider les jeunes à avoir une certaine reconnaissance.
Oui, c'est des béquilles et ça a des vertus positives aussi. On a beaucoup décrié les problèmes négatifs, mais il y a aussi des choses extrêmement positives.
Nous autres, on est à Puissance Maximale, on veut les entendre, ces points positifs-là.
Mais il y a la question de l'identification qui est fascinante. Vous le savez sans doute aussi bien que moi, là, mais des jeux comme World of Warcraft permettent de se créer une identité différente. À partir de là, on peut s'essayer autrement, on peut s'expérimenter autrement. Comme il y a des rapports avec d'autres joueurs, on peut aussi essayer des positions différentes dans les rapports interpersonnels. On peut essayer des choses, voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a bien des jeunes qui sont un petit peu plus bourrus dans les jeux en ligne ou qui sont au contraire un petit peu plus doux. Alors, ils peuvent essayer des facettes de leur identité un peu différentes.
C'est ça. Dans la vraie vie de tous les jours, on peut avoir un job assez plate, on peut être caissier ou des trucs comme ça. Puis alors que quand on devient... On rentre dans un jeu en ligne, on peut devenir un chevalier, une princesse, quelque chose comme ça. Donc finalement, on peut développer un autre monde et se réaliser à travers ça.
Exact. Ça répond beaucoup à ça parce que c'est un univers qui est d'une extraordinaire cohérence aussi. C'est extrêmement valorisant de prendre part dans un univers où il y a des valeurs très claires dans la société contemporaine. Rappelez-moi des valeurs absolument claires, vous. C'est pas évident, il y en a pas des tonnes. Dans World of Warcraft, quand on réussit à poser une bonne action, le jeu nous récompense de points d'expérience. Il y a une morale du jeu.
Et on parle d'un monde virtuel. Est-ce que justement cette réalisation-là n'est pas virtuel en tant que tel, ou vraiment avez-vous des preuves que les joueurs peuvent vraiment se réaliser?
La réalisation n'est pas nécessairement virtuelle dans la mesure où c'est nécessairement... Si vous faites un sport, par exemple, et que vous y excellez, votre réalisation, elle est symbolique. Je veux dire, c'est un peu bête de frapper sur une balle dans une certaine mesure et puis de réussir à gagner des matchs. Ça a quelque chose d'absolument abstrait. De la même façon que jouer aux jeux vidéo, ça a quelque chose d'abstrait. Et donc, dans la mesure où c'est reconnu par un milieu, ça a une valeur en soi.
C'est ça. Ça se traduit dans le réel, là, ce qui est dans le virtuel.
J'ai rien contre les jeux avec des balles, là, qu'on m'entend.
Non, on a très bien compris ici.
Oui, ta puissance maximale, il n'y a aucun problème avec ça.
Oui, le téléphone sonne.
T'as pas aimé les sports, regarde, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais dis-moi, Maxime Coulombe, t'as écrit ce bouquin-là, mais disons-le, toi-même, t'es un joueur?
Je suis un ancien joueur. J'avoue que depuis les dernières années, j'ai moins joué un peu, là, le temps m'a manqué, mais ça a été retrouver des univers que je connaissais un petit peu. Moi, j'étais plutôt de l'époque, ça va trahir mon âge, là, mais j'étais plutôt de l'époque Duke Nukem, voire Unreal. Et
donc,
puis,
t'as pas connu l'époque de World of Warcraft, dans le fond?
Le tout début, non. J'y étais pas. Sauf peut-être le premier Warcraft. Pas le World of Warcraft, mais Warcraft
1.
Ouais, même Diablo, tout ça. Ce genre de jeu-là, j'y ai joué. Mais donc, il y avait eu, là, ça faisait 5 ans, 5-6 ans que je jouais beaucoup moins quand on m'a approché pour écrire ce livre-là. Là, c'est des gens qui me connaissaient un peu qui me l'ont proposé.
Ah, c'est des gens qui t'ont proposé ça.
Ben, je dirais que c'est publié en France dans une jolie maison d'édition, mais le milieu intellectuel français est un peu différent parce que c'est rare d'avoir un jeune professeur d'université, donc d'avoir à la fois une expérience du jeu et une certaine crédibilité dans le monde de l'édition. Fait que c'est un créneau qui n'existe pas vraiment. Ah, okay. Puis bon, les gens qui qui était responsable de la collection me connaissait bien et puis savait que c'était le genre de question que je connaissais un petit peu parce que dans mon autre chapeau, c'est d'être historien de l'art, là, spécialiste des nouvelles technologies, fait que c'est sûr que ben, ça avait des liens avec d'autres de mes recherches.
OK. Ben, pourtant, il y a beaucoup de recherches quand même qui se fait sur les jeux vidéo. On a juste à penser justement à l'équipe du NT2 qu'on reçoit à chaque mois, là, qui font des recherches constamment.
Ben oui, c'est des bons amis. Ouais.
Oui, tu les connais bien, ouais.
Oui.
Continuons à parler de ce bouquin, Le monde sans fin des jeux vidéo. Là. Donc, on peut dire que c'est les jeunes, ben, les gens qui jouent, ben, c'est pas juste des jeunes, là, je suis en train encore de faire mon vieux de la vieille, mais c'est les gens qui jouent à ces jeux en ligne-là, ils veulent se réaliser à travers ces jeux-là. Et, donc, est-ce qu'on pourrait parler d'une fuite dans le monde irréel? Ou...
Il y en a une. Je pense que c'est... on a tous besoin du recours de la fiction pour être capable d'assumer notre condition d'humain. Je veux dire, on a toujours recours à la fiction, que ce soit dans le roman, que ce soit dans le cinéma,
dans le
théâtre. Les jeux vidéo participent de ça, mais un peu comme la plupart de ces activités agréables-là, ce qu'on appelle, ce qui fonctionne sous le principe de plaisir, c'est un peu comme... c'est une arme à double tranchant. Les Grecs avaient une jolie expression qui était le pharmakon. Le pharmakon, c'est un médicament, c'est aussi un poison. C'est les deux à la fois, puis tout est une question de mesure.
De dosage.
C'est pour ça que c'est ni bien ni mal en soi. Je pense qu'on peut passer par des... On peut développer des aptitudes, on peut apprendre par des jeux en ligne comme ceux-là. Mais il y a un moment donné où, effectivement, il y a une zone frontière où ça peut devenir... un peu malheureux parce que ça peut dégrader la qualité de vie du joueur. Celui qui a décidé de vider son congélateur, son frigo, il n'y a plus rien dans son armoire parce qu'il n'ose pas partir plus que 15 minutes de chez lui.
C'est sûr faut dire aussi que quand on joue à un jeu en ligne, on peut faire 24 heures en ligne sans arrêter de jouer. Alors que si, mettons, on s'évade par le théâtre en inventant un personnage, je veux dire, après 2 heures de représentation, c'est fini. Puis après ça, on fait pas de représentation avant la semaine prochaine. T'sais, alors que c'est peut-être ça le problème, finalement. Ben,
Je sais pas si c'est nécessairement un problème. Je sais qu'il y a un certain nombre de comportements qui deviennent problématiques. Il faut le reconnaître. Je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf. Mais malgré tout, l'utilisateur moyen, le citoyen moyen nord-américain écoute la télé 30 heures par semaine. Quand on sait que ces jeux-là remplacent souvent la télé et que la moyenne de jeu est de 20 heures, il n'y a pas nécessairement de problème. C'est remplacer une activité par une autre, puis que je sache, à World of Warcraft, entre autres, on communique peut-être plus qu'à écouter la télé, parce qu'on est avec des gens en ligne, parce que bon, et c'est un moyen de reconnaissance et de valorisation un peu différent. Fait que je suis d'accord, il y a des problèmes, il faut les reconnaître, il faut sans doute aider des gens. Mais dans l'absolu, ça demeure un divertissement qui fonctionne relativement bien.
Et là, Maxime, dans ton livre aussi, tu parles des mécanismes pour justement que les joueurs restent dans le jeu. Est-ce que les entreprises utilisent les faiblesses des joueurs pour les garder accrochés au jeu?
Ben, c'est très difficile parce que les gens de Blizzard vont pas vouloir me rencontrer pour en discuter, c'est évident. Consciemment, j'en sais trop rien. Ce sont des individus, ce sont des sujets contemporains. Je veux dire, ils sont pas extérieurs à ce qui fonctionne bien dans notre société contemporaine. Ils le savent personnellement. Mais effectivement, pour moi, le jeu comme World of Warcraft, c'est à mi-chemin entre le bon vieux jeu d'arcade où on vide ses poches à mettre des 25 cents dans la machine. Et puis, le jeu nous stimule continuellement pour qu'on vide nos poches, finalement, dans le jeu. C'est un peu le principe, tu sais, d'activité rapide et répétitive.
Parce que moi, je me rappelle, il y a un gars que je connais qui avait commencé à jouer à World of Warcraft. À un moment donné, il s'est désabonné. Puis, il s'est rendu compte que lorsqu'on veut se désabonner, il y a à peu près 2-3 confirmations, puis à travers ça, il y a une espèce d'appel à l'émotion. Il y a des personnages qui nous implorent de ne pas quitter.
C'était juste, oui, je me rappelle avoir, parce que j'ai arrêté de jouer moi aussi, je me rappelle d'une sorte de personnage étrange. Je pense que c'était un orc qui pleurait,
me disant
qu'il s'ennuyait de moi. Alors effectivement, c'est un peu de mauvais goût, là, soyons honnêtes, c'est un petit peu de mauvais goût.
Oui, on a parlé de s'évader justement à travers les romans, le théâtre, que ce soit même le cinéma. En tant que sociologue, on parle d'éléments de culture ici. Là, je veux dire, moi, si je lis un roman de Michel Tremblay, je lis la culture québécoise. Si je lis Garcia Marquez, on parle de la Colombie, même au niveau du cinéma. Est-ce qu'un jour, le jeu vidéo va en venir justement à être un élément considéré justement en termes de culture? On parle de la culture du jeu, mais est-ce que ça sera le jeu comme culture? Est-ce que vous pensez que ça va arriver?
C'est une belle question. Je pense que Oui, je pense que c'est nécessairement un phénomène de culture. Qu'il ne soit pas reconnu comme un phénomène de culture, c'est déjà un autre problème. Mais dans l'absolu, c'est un phénomène de culture. Il y a des générations de jeunes et même maintenant d'adultes qui ont été en partie éduqués par ces jeux vidéo-là. Ça a eu un impact extraordinairement grand. Ça a un impact culturel. Est-ce qu'on est capable de le reconnaître? Est-ce qu'on est capable de lui donner ses lettres de noblesse? Ça, c'est une autre question.
Donc, Maxime Coulombe, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Avant de se terminer? Avant de terminer l'entrevue?
Est-ce que le livre est disponible ici présentement au Québec?
Pas encore. Seulement en France? Il est lancé en France à la mi-février. Alors, théoriquement, un bon mois plus tard, il devrait être disponible.
Sinon, il peut être disponible sur Internet, sur Amazon.
Oui, oui, vous le trouvez déjà sur Amazon. Snack.com. Un petit peu, ouais.
Voilà. Donc, Le Monde sans fin des jeux vidéo. C'était Maxime Coulombe, l'auteur. Merci beaucoup d'être passé.
Bien, merci à vous.
Merci. Et on y va en musique, François, comme à l'habitude?
Et oui, on va écouter une pièce des donjons de Nihilbuk. Ça va être, notre sympathique personnage. Les donjons de Nihilbuk. Vous êtes à puissance maximale.
Est-ce que maintenant on peut faire des chansons traditionnelles naines?
Ah, c'est une pièce qui est enregistrée à Montréal.
Alors, on a longtemps cru que les nains ne chantaient pas. Parce qu'en fait, ils ont que deux occupations, ils boivent ou alors ils creusent. Ouais! Mais on avait tort. En fait, nous, on est partis dans les mines en groupe et on a interrogé un nain, gentiment, hein. Et il nous a délivré une de leurs vieilles chansons qui s'appelle « Mon ancêtre Gurdil ». Sur mon ancêtre Gurdil, alors normalement on fait les percussions parce que tous les nains frappent avec leurs chopes sur la table. Mais on n'a pas tous des chopes et des tables. Et puis en plus, voilà. Alors, on va vous montrer. On va vous montrer parce qu'il y a un rituel en fait. Il y a un rituel. Ça fait comme ça.
Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas se de la surface.
Et là, on tape pas. C'est là le truc du rituel. Bon, c'est parti.
Oui. Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin.
Mais non, c'est pas le refrain.
Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ceux de la surface.
Allez, chauffe Gimli, chauffe!
Un jour, mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt. Il y avait soi-disant du mitril. S'il y en avait, on sait pas où il se trouvait. Il fit sa cabane en bordure d'un bois touffu peuplé d'elfes sylvains. Des gens qui bouffent de la verdure.
Évidemment, ça ne fait pas des bons voisins. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on n'aime pas cela sur face.
Allez, envoyez les tambours.
Arrière, tu n'es pas bienvenu. Lui dire les elfes en lui jetant des pierres. Voyant que tout était foutu, il prit la fuite en suivant la rivière. Il fut recueilli par les fées, ondine bleue bulant sur le rivage. De l'eau de pluie lui fut donnée, il recracha tout dans leur visage. Nous sommes allés là sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit, et on n'aime pas ce la surface.
Ah ça, c'est sûr.
Courant à travers les fougères, il arriva près d'un village humain. bien sûr qu'on y vendait de la bière. Mais aucun homme ne voulait servir un nain. Gurgil massacra le patron d'une taverne à coups de tabouret. Puis il rentra à la maison et de la mine il ne repartit jamais. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit et on efface la surface. Amis, restons bien à l'abri, mangeons, buvons dans nos maisons de pierre. Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, resserre donc une bière. Nous sommes les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit. Et on efface la surface. Nous sommes les nains sous la montagne. On croit le jour, on boit la nuit. Et on efface la surface.
Merci.
Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Fredon, qu'on salue, qui nous écoute toutes les semaines. Et nous allons passer maintenant à l'actualité. François, que s'est-il passé dans le beau monde du jeu cette semaine?
Eh bien, imagine-toi que le créateur de Tetris, qui est venu en voyage à Québec, ben, en fait à Montréal, et est venu parler évidemment de son jeu.
Qui est un russe, hein, ce créateur-là, bien sûr.
Alexei Pajitnov et Hank Rogers. Donc, effectivement... Monsieur Pajitnov, c'est un Russe. Il a développé Tetris dans les, à l'époque soviétique, en Union soviétique. Et il est venu donc faire la promotion de Tetris. Là, vous vous êtes en train de vous dire, ben là, ça fait vraiment longtemps que Tetris existe.
Ben oui, ça donne quoi de faire la promotion? Qu'est-ce qui est arrivé avec Tetris?
Imagine-toi qu'il y a EA Mobile qui ont sorti Tetris sur des portables,
des téléphones cellulaires.
Des téléphones cellulaires. Et il s'en est écoulé en l'espace de 5 ans sur 64 000 cellulaires différents. Il s'en est écoulé 100 millions de copies.
Wow!
Tetris.
As-tu pensé, le gars, il a inventé le jeu, ça fait plus de 20 ans, et il fait encore de l'argent avec ça.
Incroyable. Mais pendant longtemps, il n'a pas fait d'argent là-dessus. Quand il
était
en Union soviétique,
au début, là, c'était incroyable, oui. Donné, c'est venu très, très, très populaire, justement, avec le Game Boy, à l'époque. Le Game Boy a amené Tetris à devenir extrêmement populaire. Puis là, vraiment, aujourd'hui, 100 millions, t'as dit?
100 millions 100 juste millions. Sur EA Mobile.
Incroyable.
Donc, évidemment, c'est les déviations de Tetris qu'on connaît.
Mais moi, j'aimerais bien être le créateur et avoir demandé 1 $ seulement par téléchargement. Je serais 100 millions de fois plus riche aujourd'hui.
Clairement. C'est Hank Rogers, c'est son partenaire. C'est un Américain qui est allé chercher M. Pajitnov en Union soviétique pour, dans le fond, commercialiser son jeu. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Et que ça a connu l'ampleur qu'on connaît de ce jeu-là. Et c'est encore possible de jouer à des versions qui se rapprochent beaucoup à la version d'origine du premier Tetris sur Internet. Il y a Jouer.com qui a consacré deux articles sur Tetris. Et il y a toutes sortes de liens de toute beauté qu'on peut jouer, des versions exotiques un peu de Tetris. Allez voir ça. Et Puissance Maximale vous promet une entrevue avec M. Pajitnov dans les prochaines semaines. Je travaille là-dessus. Et donc, ça s'en vient.
Donc, tu vas sortir ton russe, François?
Il parle en anglais, on va essayer de le traduire et puis peut-être que ce sera juste disponible sur le site Internet. Toujours est-il qu'il a surveillé ça. Monsieur Pajitnov qui venait à Montréal pour parler de Tetris et apparemment qu'il reste sa résidence, là, il partage sa vie entre Hawaï et les États-Unis. Donc de l'Union soviétique froide à Hawaï, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait depuis.
Et voilà. Mais alors d'avoir une bonne idée, hein, finalement, ça sera sûrement notre tour bientôt.
Sinon aussi, toujours dans l'actualité ludique, il y a les... est-ce que ça t'intéresse les top 10 des jeux les plus vendus depuis 1995?
Oui, vas-y donc.
C'est toujours évidemment rapporté par Jouer.com.
On parle de quel type de jeu, François? Le jeu vidéo?
Jeu vidéo. Donc, c'est le NPD Group qui a rapporté ça. Donc, allons-y par ordre du moins vendu. Ben,
du moins vendu, mais qui est quand même un nombre 10. Assez intéressant.
Depuis 1995, donc en 10e position... Namco Museum, Qu'est-ce que c'est que ça?
Je sais pas, mais j'ai pas joué.
9e position, Call of Duty World at War.
Oui.
Un jeu de tir à la première personne.
Oui, qui est l'avant-dernier Call of Duty, finalement.
Madden NFL en 8e position.
C'est toujours des jeux qui sont extrêmement vendus, des amateurs sport. De football.
7e position, Call of Duty 4 Modern Warfare. Il est sorti en 2007.
Oui, puis lui, il était excellent, vraiment. Là, j'ai regretté d'avoir échangé ce jeu-là contre World at War à l'époque parce que les gens continuaient à jouer. Et vraiment, les gens ont continué à jouer à ce jeu-là là, jusqu'à la sortie du dernier Modern Warfare.
Excellent jeu. Sinon, 6e position, Mario Kart Wii.
Excellent jeu également.
5e position, la Wii Fit avec la Wii Balance Board.
Qui ne fonctionne pas du tout parce que je n'ai pas perdu de livre en faisant de la Wii Fit.
Mais bon, si vous pouvez avoir des bonnes. Essayez d'avoir une bonne conscience avec ça,
ouais,
ça marche très bien.
C'est quand même intéressant comme jeu, je veux dire. Ne l'achetez pas pour perdre du poids.
Et 4e position, Call of Duty 4 Modern Warfare 2. Donc, tantôt c'était la Modern Warfare 1.
Oui.
Après ça, 3e position, Grand Theft Auto San Andreas.
San Andreas, oui.
Grand Theft Auto qui est toujours aussi populaire. Donc, le jeu de gangster qui on se promène en char et on tire partout.
San Andreas qui était attendu à l'époque, vraiment attendu parce qu'il faisait suite à Vice City qui avait été quand même très, très bon. Mais San Andreas qui a... Moi, je l'ai adoré, mais certains joueurs l'ont pas aimé justement parce que la carte était extrêmement grande et il y avait des longueurs dans le jeu. Mais moi, quand même, c'est un jeu que j'ai adoré pour les possibilités qu'on avait de piloter des avions en plus des motos et des bateaux réguliers du jeu.
Et 2e position, toujours les top 10 les plus vendus des jeux vidéo depuis 1995. En niveau 2, c'est Guitar Hero 3, Legends of Rock.
Oh.
Et le fameux jeu de guitare et de musique. Et la première position, est-ce que tu as une idée?
Quelle est-elle? Est-ce que c'est un jeu?
C'est un jeu qu'on a parlé, qu'on en a déjà parlé, qui était dans les tops. C'est la Wii Play. Avec télécommande, oui, là, tout le monde s'arrête à dire, hein, c'est quoi ça?
Wii Play, bien Wii sûr. Play. Non, c'est sûr que parce que le jeu, quand il est sorti, en fin de compte, quand la console Wii est sortie, il y avait le Wii Sports qui venait avec, mais la console ne venait seulement qu'avec une manette. Et on a rapidement, chez Nintendo, fait place au Wii Play. Et avec le jeu, on donnait justement une deuxième Wiimote qu'on pouvait utiliser. Donc, c'est certain que ça a été extrêmement populaire. C'était une façon d'acquérir une deuxième manette pour peu.
Et ce qui est curieux dans tout ça, c'est que tous les jeux, en fait, le top 10 depuis 1995, il y a 9 jeux sur 10 qui sont sortis après 2007.
Ben, c'est incroyable.
Donc, il y en a un seul, c'est Namco Museum, qui j'ai aucune idée c'est quoi, qui est en 10e position, qui est sorti en 1995. Donc, finalement, si je comprends bien, les jeux les plus populaires sont sortis les 5 dernières années, tout simplement.
Eh oui.
Donc voilà pour cette partie-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité ludique? Allons voir ça. Le E3, qui est le fameux événement de jeu. Donc, il y a une liste des exposants qui est sortie. C'est disponible sur jouet.com. Donc, toute la bande est là. Les jeux qui vont être exposés sont marqués. Toutes les exposants sont là, donc allez voir ça sur jouet.com.
C'est vraiment le fun d'aller faire un tour au E3. Et c'est déjà la fin de l'émission. C'est maintenant le temps de la fin de l'émission. Le temps de remercier les gens qui ont participé à Puissance Maximale aujourd'hui. Merci à Raymond Poirier qui est passé pour sa chronique sur le web. Et merci également à Maxime Coulombe, professeur à l'Université Laval, qui est venu nous parler de son nouveau livre qui concerne les jeux vidéo. Et bien sûr, merci à François G. Couillard qui est derrière la console aujourd'hui. Merci d'avoir participé à l'émission, François.
De peine et de misère. Merci beaucoup, Vincent, à toi.
Très bien, ça me fait plaisir. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.
I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready.
Femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité.
Salut, c'est Evelyne d'Insiscoitel, moi c'est Koya, c'est sur la démocratie et la place des membres.
Tu aimes cette station toi aussi? Deviens membre.